Bonjour à tous. Bonjour Pedro. Bonjour les autres aussi. Ça va? Vous êtes en forme?
Oui.
Oui. C'est bien. On va ouvrir la parole. Je vérifie simplement que ce que j'ai entre les mains marche. Voilà, nous abordons aujourd'hui la troisième et dernière prédication portant sur la deuxième lettre de Pierre. Alors, en janvier dernier, première prédication, après une introduction, nous avons étudié le début du chapitre 1 et nous avons mis en évidence une double idée qui est à l'origine du titre de cette première prédication, la plénitude de la grâce et un indispensable effort. Alors, la plénitude de la grâce, parce que Dieu nous a tout donné, tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement à sa personne. Un indispensable effort, parce que le texte nous a montré que cet indispensable effort consistait à ajouter à la foi un certain nombre de qualités avec des guillemets. Leur nombre 7 était probablement symbolique. Et ces qualités avec des guillemets nous permettaient de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ, sa personne et son œuvre, ce qu'il est et ce qu'il a fait. En février dernier, deuxième prédication centrée sur le chapitre 2. Alors dans ce chapitre, d'une manière très vigoureuse, Pierre met en garde contre des personnes qu'il appelle des enseignants de mensonges. Il désigne des personnes qui, je cite, « introduiront subtilement des erreurs qui mènent à la perdition. Ces personnes, dit-il, renieront le maître qui les a rachetées et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Il m'a semblé possible de qualifier ces personnes de prédateurs. Et ces prédateurs, je cite, « cherchent à appâter par l'attrait des désirs sensuels et de l'immoralité » ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivant dans l'erreur. Alors aujourd'hui, nous allons nous consacrer principalement, mais pas seulement, au chapitre 3 de la lettre. Et après nous avoir mis en garde au chapitre 2, comme on vient de le dire, contre les enseignants de mensonges, Pierre va mettre devant nos yeux une deuxième catégorie de personnes, elle aussi nuisible pour les croyants. Pierre nomme ces personnes, il les désigne comme des moqueurs. Alors, je vous propose de lire, comme vous l'avez compris, dans le chapitre 3, pas immédiatement au début, nous reviendrons tout à l'heure sur les deux premiers versets, mais sur le verset 3 et le verset 4, donc du troisième chapitre de la deuxième lettre de Pierre. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue ? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'est changé. » Pierre parle des moqueurs au futur. Peut-être, en toute rigueur, ne sévissent-ils pas encore, mais comme pour la première catégorie de personnes, les enseignants de mensonges, il n'est pas impossible de penser qu'ils sont déjà à l'œuvre à l'époque où Pierre écrit sa lettre. Ces moqueurs tournent la foi des croyants en ridicule. Il est question en verset 4 d'une promesse de sa venue. Alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue ? Moi, j'entends de l'ironie dans cette question. Les moqueurs ajoutent « Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'est changé. » Autrement dit, le temps a passé, rien n'est changé et, c'est sous-entendu, la réalisation de la venue, de la promesse de sa venue, n'est pas encore arrivée. Alors, mais de quelle promesse s'agit-il ? À la fin du verset 2 que nous n'avons pas encore lu, il est question du Seigneur et Sauveur. Donc cet indice nous permet d'affirmer qu'il s'agit d'une promesse concernant notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ donc. Et au verset 4 que nous avons lu, elle concerne sa venue. Alors évidemment, il ne s'agit pas de la venue de Jésus-Christ pendant les 30 et quelques années de son incarnation, mais d'une venue ultérieure, décrite dans les évangiles dits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Les moqueurs prétendent que depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Et donc, en poursuivant leur pensée, Dieu n'agit pas, ou peut-être, et ça c'est moi qui l'ajoute, Dieu n'existe pas. Ce qui expliquerait, toujours selon les moqueurs, que la promesse de la venue de Jésus-Christ, la deuxième venue, tarde à se réaliser. Alors pour combattre cette position erronée des moqueurs, Pierre va par deux fois rappeler des vérités qui semblent oubliées. Alors nous allons les redécouvrir, ces deux vérités. Première vérité, versets 5 et 7, toujours du chapitre 3 de la deuxième lettre de Pierre. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux, il l'a rassemblée au milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et au ciel actuel, aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jugement, du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Alors, il s'agit là d'une vérité que les moqueurs oublient, qu'ils oublient délibérément, d'après le texte. Tout au long de l'humanité, le Dieu créateur n'a pas été inactif et il ne le sera pas non plus dans l'avenir. Il a créé, je cite, autrefois le ciel et la terre. Il a détruit, je cite, le monde d'alors par les eaux du déluge. Voilà pour le passé. Mais il a gardé la terre et les cieux actuels en vue, je cite, du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Voilà pour les temps à venir. Évidemment, les moqueurs, ce que Pierre appelle dans ma traduction « ces gens », semblent suffisamment évidemment concernés par ce jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Deuxième vérité, versets 8 et 9. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le, c'est pas moi qui le dis, c'est le texte. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'application, dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait tout simplement œuvre de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Il s'agit là d'une vérité que les lecteurs de Pierre, ceux que Pierre appelle ses chers amis, ne doivent pas oublier. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Un jour est comme 1000 ans, le temps se dilate. 1000 ans sont comme un jour, le temps se contracte. Bref, l'échelle du temps pour Dieu n'est pas la même que l'échelle du temps pour nous. Dire que Dieu tarde n'a donc pas de sens, puisque le dire revient à considérer que les deux échelles de temps, celle de Dieu et ses hommes, seraient les mêmes, ce qui n'est pas. C'est ce qu'écrit Pierre au verset 9, « Le Seigneur n'est pas en retard, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Alors, suivant encore le fil de l'argumentation de Pierre, il est en train, je le rappelle, de répondre aux moqueurs, lesquels disaient au verset 4, « Alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue ? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Et après avoir rappelé par deux fois des vérités qui semblaient oubliées, qu'on vient de lire, Pierre va opposer un argument décisif aux moqueurs. Ils affirment que rien n'a changé. Pierre va leur annoncer un changement majeur concernant ce que le verset 10 appelle le jour du Seigneur. Verset 10 à verset 13. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété, en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue, Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Alors notre but n'est pas aujourd'hui d'analyser la portée des événements qui viennent d'être décrits, mais seulement qu'ils sont de nature, je le dis familièrement, à clouer le bec aux moqueurs, lesquels feignaient d'attendre des changements qui, disaient-ils, ne venaient jamais. Alors on lit successivement des choses impressionnantes. Le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront. L'univers aussi doit se désagréger, dit le texte. Que le ciel en feu se désagrégera, que les astres embrasés fondront. Il est aussi mentionné au verset 10 que la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Enfin, Pierre annonce, après cette période de jugement, une période de justice, justice qui habitera dans des cieux nouveaux et sur une terre nouvelle. Alors, après avoir entendu cet argument décisif, nous poursuivons la lecture du chapitre 3. Alors, il se trouve que ces annonces concernant le jour du Seigneur ont d'ores et déjà, d'après le texte, des implications immédiates dans notre propre vie. Clairement, elles constituent une exhortation à une vie sainte et dans la piété. J'ai l'impression que j'ai sauté une diapo, peu importe. Je suis actuellement sur la bonne diapositive. Il y a d'abord une courte incise dans le passage que je viens de lire, passage où Pierre, au verset 11 et 12, écrit « Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener, et avec quelle piété, en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. » Ces annonces concernant le jour du Seigneur, appelé encore le jour de Dieu au verset 12, constituent dès maintenant une exhortation à la sainteté et à la piété. Et cette exhortation est particulièrement marquée au verset 14 et 15. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Comprenez bien, dit-il à ses chers amis, que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Pierre exhorte ses chers amis, et donc aussi nous-mêmes, à faire tous leurs efforts pour que Dieu les trouve purs et irréprochables à ses yeux dans la paix qu'il donne. On retrouve ainsi à la fin de la lettre de Pierre, nous sommes à la fin de la lettre de Pierre, l'idée d'efforts qu'il a développé dans les tout premiers versets de sa lettre et qui ont été commentés au cours de la première prédication. C'est l'occasion de rappeler une dernière fois le titre de cette première prédication, « La plénitude de la grâce est un indispensable effort ». Et ce titre évoquait à la fois la part de Dieu avec la plénitude de la grâce et la part du disciple avec un indispensable effort. Cette exhortation à mener une vie sainte et dans la piété se retrouve aussi dans la fin de la lettre, au verset 17 et au début du verset 18. Verset 17. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupiez. La mise en garde est de ne pas se laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu, les moqueurs donc, et ainsi de perdre la position solide que nous occupons. Verset 18, au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici le début du verset 18. L'exhortation est de progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On retrouve ici, sous l'impératif « progresser sans cesse », l'indispensable effort qui est la part du disciple qu'on a signalé il y a quelques secondes. Et on retrouve également, comme cela a été souligné à la fin de la deuxième prédication, le thème de la connaissance de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À l'époque, il avait été souligné que c'est par la connaissance qu'on a de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au sens de la connaissance intime de notre Seigneur et Sauveur, qu'on s'arrache à la corruption du monde. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. Alors nous avons lu la presque totalité des versets du chapitre 3, objet principal, je le dis, de la prédication de ce jour, mais pas objet tout à fait unique, on va le voir. À l'exception de deux courts passages. L'un, versets 15 et verset 16 du chapitre 3. Dans ce passage, Pierre fait allusion aux écrits de Paul, dont il dit successivement qu'il confirme ce qu'il vient, lui, Pierre, de nous écrire, qu'on y trouve des passages difficiles à comprendre, chez Paul, et que certaines personnes en déforment le sens. Nous ne dirons rien de plus sur ce court passage, donc qui correspond sur la diapositive à ce qui est marqué en bas à droite. Alors, en revanche, nous allons lire un autre passage qui mérite notre attention. C'est celui qui est repéré en haut à droite sur la diapositive, en vert. Ce sont les versets 1 et 2 que, volontairement, j'ai sauté au début de la lecture du chapitre 3. Donc, nous lisons, pour en terminer avec le chapitre 3, les versets 1 et 2 de ce chapitre. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Ici, comme dans tout le chapitre 3, le ton est affectueux. Pierre n'hésite pas à appeler ses lecteurs ses chers amis. Il le fait au verset 1, on vient de le lire. Mais il le fait encore au verset 8, au verset 14, au verset 17. Je ne l'avais pas fait à l'époque remarquer. Il est question pour Pierre de rappeler à ses lecteurs l'enseignement qu'ils ont reçu, et cela pour stimuler en eux une saine manière de penser. Mais de quel rappel s'agit-il? Pierre, au verset 2, cite deux sources. Il cite les paroles dites autrefois par les saints prophètes, et il cite, toujours au verset 2, le commandement du Seigneur et Sauveur que les apôtres ont transmis. Donc les deux sources sont les prophètes et les apôtres. L'enseignement des prophètes et l'enseignement de Jésus-Christ communiqué par les apôtres. Nous retrouverons ce souci manifesté par Pierre de réactiver l'enseignement que ses lecteurs ont reçu dans quelques minutes à la fin de la prédication. Voilà, au point où nous en sommes arrivés, nous avons parcouru au cours des trois prédications la presque totalité de la deuxième lettre de Pierre. C'est ce qu'indique la diapositive que vous avez sous les yeux. Il nous reste simplement, pour terminer, à faire quelques remarques sur la deuxième partie du chapitre 1, ce qui correspond à la zone en vert, en bas, à gauche, avec des points d'interrogation sur lesquels nous allons, pour terminer, dire quelques mots. Nous revenons sur cette partie-là, deuxième moitié du chapitre 1, pour une rapide incursion. Voilà, rapide incursion, rapide promenade dans cette zone-là. Je vais me contenter de lire trois versets. Donc nous sommes, si je ne vous ai pas perdu en route, dans le chapitre 1. Et nous lisons les versets 12 à 15. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà, et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore de ce monde, car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel. Comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que, même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. Alors, un thème saute aux yeux, là. Nous l'avons déjà rencontré, d'ailleurs, il y a quelques secondes. Il s'agit du souci de Pierre de rappeler à ses lecteurs l'enseignement qu'ils ont reçu. Et ce thème-là, dans les trois versets que nous venons de lire, les quatre versets que nous venons de lire, ce thème apparaît trois fois dans cette deuxième moitié du chapitre 1. Il apparaît au verset 12. « Je ne cesserai de vous rappeler ces choses. » Quelles choses ? Ah ben, celles qui précèdent. Autrement dit, celles que nous avons vues lors de la première prédication. Il s'agit effectivement de rappel, puisque Pierre précise ici que ses lecteurs, ils savent déjà ces choses et qu'ils sont fermement attachés à la vérité qui leur a été présentée. Ensuite, deuxième allusion au rappel, au verset 13. « J'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels. » Pierre indique les deux fois, d'ailleurs, la permanence des rappels qu'il compte adresser à ses lecteurs. « Je ne cesserai de vous rappeler ces choses » au verset 12. « J'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels tant que je serai encore dans ce monde » au verset 13. Alors, par parenthèse, on le voit, on l'a lu au verset 14. Pierre indique à ses lecteurs qu'il sait, par une révélation du Seigneur Jésus-Christ, qu'il va bientôt quitter son corps mortel. C'est le verset 14 qui nous l'apprend. Mais enfin, même au-delà de son décès, Pierre dit qu'il fera en sorte que ses lecteurs se rappellent toujours ces choses. Troisième allusion au rappel au verset 15. À peu près tous les commentateurs sont d'accord que Pierre laissera derrière lui un écrit qui aura fonction de rappel et qu'on pourra encore lire après sa mort. Et s'ils ne sont pas tous d'accord, les commentateurs, sur la nature de cet écrit, bon nombre pensent, c'est d'ailleurs la solution la plus simple, que cet écrit est tout simplement la lettre dont nous sommes en train de parler. Et pour terminer, le survol de cette deuxième lettre de Pierre, il faudrait que nous nous arrêtions sur un petit bloc de six versets au chapitre 1, C'est ce qu'indique la diapositive en bas à gauche, avec des indications avec des croix. J'ai choisi de ne pas lire ces versets. Je propose plutôt d'utiliser les dernières minutes de cette prédication pour mettre un peu d'ordre et de structure dans ce qui a été dit au cours des trois prédications. Et cela dans un but de fixer les idées et les souvenirs. Alors, je ne reviens pas dans le détail sur les trois blocs qui ont constitué le sujet principal de chacune des trois prédications. Je les réénonce simplement. Pour la première prédication, un premier bloc intitulé « La plénitude de la grâce est un indispensable effort ». Pour la deuxième prédication, un deuxième bloc consacré aux enseignants de mensonges. Et pour la troisième prédication, un troisième bloc consacré aujourd'hui aux moqueurs. Vous avez peut-être remarqué, j'ai essayé de m'y employer, que la lettre est traversée par quelques thèmes qui se trouvent plusieurs fois au cours de la lettre. C'est le sens de cette flèche bleue qui va du chapitre 1 au chapitre 3. J'ai fait allusion plusieurs fois à des répétitions de thèmes. Ces thèmes, on va dire, qui sont transversaux par rapport aux trois chapitres, donc par rapport aux trois prédications. Et je vous propose simplement, pour terminer sur cette diapositive-là et dans la prédication, de faire une liste de ces thèmes, au moins ceux que j'ai repérés. Je vous en propose trois, sans prétendre qu'il n'y en ait pas d'autres, sans prétendre à l'exhaustivité. Premier thème, le thème de l'indispensable effort rencontré au cours de la première prédication. Ceux qui ont été appelés et choisis ont déjà reçu tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Il n'empêche qu'ils doivent faire, je cite, « d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix ». Alors ce thème est transversal parce que, par exemple, on l'a retrouvé aujourd'hui vers la fin du chapitre 3, au verset 14 et 18. Il y a aussi le thème du rappel des enseignements, déjà reçus. Alors ce thème est clairement transversal. On l'a rencontré déjà deux fois ce matin, par exemple, dans la deuxième moitié du chapitre 1 à trois endroits, il y a quelques instants, versets 12, 13, 15, ainsi qu'au chapitre 3, versets 1 et 2, il y a quelques instants aussi. Et puis, il y a le thème de la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce thème est transversal. On le trouve au tout début du chapitre 1, verset 2. À la fin du chapitre 2, verset 20, à la toute fin du chapitre 3, verset 18. Alors il s'agit de la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, non pas la connaissance intellectuelle seulement, mais la connaissance personnelle et intime que le disciple peut avoir de son Seigneur et Sauveur. À plusieurs reprises d'ailleurs, ça m'est revenu cette semaine, au cours des dernières semaines, il me semble bien avoir entendu d'autres prédicateurs parler de cette connaissance intime du Seigneur et du Sauveur à la place qui est la mienne ce matin, ce qui montre l'importance de ce thème transversal. Donc, pour ma part, je retiens, pour fixer les idées, trois blocs et trois thèmes transversaux, sous réserve qu'il y en ait peut-être d'autres que je n'ai pas notés. Amen. Nous allons en rester là, nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui nourrit nos âmes et qui est salutaire pour nous guider dans notre marche chrétienne. te remercions parce que souvent, elle nous rappelle des vérités que nous connaissons déjà. Nous te prions pour que chaque fois, ce soit une redécouverte et que chaque fois nous puissions puiser dans ta parole matière à nous faire grandir dans la foi. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui met en garde contre les enseignants de mensonges et contre les moqueurs. Nous te prions pour que tu nous donnes le discernement et la sagesse pour reconnaître ces personnes. Si leur chemin venait à croiser un jour celui de notre communauté. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu proposes un projet de progression dans la foi. Pour cela, Seigneur, nous ne comptons pas sur nos forces propres, et nous te prions que tu nous précèdes sur le chemin de sanctification que tu ouvres devant nous et que tu nous soutiennes et nous fortifie dans cet indispensable effort que tu attends de nous. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as fait la grâce de rencontrer et de connaître notre Sauveur, ton Fils Jésus. Nous te prions pour que tu nous fasses aussi la grâce de connaître chaque jour davantage notre Seigneur, ton Fils Jésus, sa personne et son œuvre, ce qu'il est et ce qu'il fait. Et cela jusqu'au jour béni où il reviendra de manière glorieuse. Amen.